On monte un morceau de House, le film, c'est de l'aspect où il a choisi les visites par Mahmoud Dajani qui visite sa maison qu'il a quittée en 1948.
Yes, that's right. Go up.
Do you recognize already?
Yes, of course. You see these three houses? Now you go to the left. Now, stop here. Here is the old house where I was brought up. This is the house. The next one is for my brother. Now you see the land. Here is the door. And there is the three rooms down for my donkey. I used to put my donkey in one of them. Now, this is all new. This is all new. It was all here. Almond trees. We used to play here and pick the trees. Here, there must have been a small cistern to collect rainwater. But this is Kamil Khalil's house. There is an addition now. It wasn't so before. It was only till that place. Now there is the new addition. Was one room, two rooms, four rooms only. Sorry. It was four rooms only. Because when we came here, it was built, you see. We came in the 1917 or 18. Because I remember, as I told you, when they began to bombard Jerusalem, we had to run away from here through Jerusalem. You know where the windmill is? The windmill is the road to old Jerusalem. Used to be in that direction. So we ran away with as little things as we could carry from our houses. And we went to the old city where I was born, next to the Wailing Wall.
But then you came back here.
Then when Allenby came, I remember when he entered Jerusalem, I was a little boy, and I went and attended his coming at the Jaffa Gate. And then, of course, we came back to our old house. We were nine boys, no girls. it's absolutely changed, you see. There were two rooms. There was a hall here and the kitchen somewhere here. It's absolutely changed.
Voilà, c'est les morceaux choisis pour démontrer en effet les démarches sur lesquelles je vais parler, sur la représentation de l'histoire d'Israël dans le cinéma d'Amos. En effet, je ne sais pas à quel point Amos est conscient, on parle ici des archives, mais en effet, tous les films qu'Amos fait depuis, produit depuis les années 70, sont submergés des regards historiques, des passions pour l'histoire des mouvements sionistes, pour l'histoire d'Israël, pour l'histoire des conflits israélo-arabes et pour l'histoire des conflits antérieurs à l'intérieur de la société israélienne. Mais avant de traiter la question de la représentation d'histoire de sionisme, d'histoire d'Israël, je voudrais un petit remarque sur les rapports entre histoire et cinéma. En 1988, la revue American Historical Review a dédié un numéro spécial au thème histoire et cinéma. Et dans cette revue, il y a un article célèbre par Hayden White, un célèbre historien américain, sur le thème historiographie et historiophotie. Pour Hayden White, historiographie, d'abord pour Hayden White, l'histoire, pas seulement pour Hayden White, pour la plupart des historiens aujourd'hui, l'histoire, ce n'est pas une série d'activités qui se sont déroulées dans le passé. L'histoire, c'est la représentation ou la connaissance sur le passé, la représentation des activités humaines et non humaines qui se sont déroulées dans le passé, recueillies par les historiens, reconstruites par les historiens à partir des sources, que ce soit des documents ou archivés, entre autres. Alors, l'historiographie, pour Hayden White, ce sont des représentations du passé et reconstruit à partir de documents écrits, tandis que les historiophotie sont les documents, ou ce sont des représentations du passé, reconstruits à partir des images fixes et des images cinématographiques. Alors, Hayden White et un autre historien qui écrit dans ce même numéro spécial, Robert Rosenstone, constituent que les historiophotie ont la même légitimité que les historiographies. Le fait que l'historiographie domine le monde universitaire, ça ne veut pas dire qu'en effet, une personne comme Oliver Stone qui a fait JFK n'est pas également historien qu'un autre historien qui parle du passé à travers un texte écrit. Un Amos Gitai qui parle du passé à travers un texte cinématographique n'est pas aussi un historien. Vous vous considérez à travers le colloque comme un bâtisseur de cinéma, de films. Mais on peut vous considérer, si on suit la logique d'Hayden White, aussi comme un historien qui produit qui fait des historiophoties, si vous voulez. Alors, et la démarche historiophotique, si vous voulez, d'Amos Gitai est constituée à travers trois thèmes. D'abord, Amos Gitai, depuis les années 70, a choisi des éléments clés dans l'histoire d'Israël et des mouvements sionistes, des problèmes principaux ou des thèmes principaux dont l'historiographie officielle israélienne tend en général à camoufler ou à faire oublier ou à conserver le silence autour, dont il essaie à découvrir et à traiter à travers les caméras et avec les caméras. Je vais essayer de parler, qu'en effet, depuis les années 70, Amos essaie de traiter les questions non traitées, non dites, des questions taboues, avec les caméras. Et deuxième élément, Et Amos essaye non seulement de traiter de manière descriptive et problématique et des mythes et des thèmes historiques non traités, il fonctionne aussi comme documentariste. Il a cette sens de pénétrer ou de saisir un événement en plan déroulement, de le filmer, et par conséquent, le film qu'il est en train de tourner devient, et au fur et à mesure, un document historique en soi. Prenons par exemple un film comme Journal de campagne, tourné au présent, qui devient, pendant la guerre des avant et durant la guerre de Liban, en 1982, ce film devient en effet un document historique, ou un document historiophotique. Également, je parlerai plus tard d'un autre film en quatre parties, tourné en 1994, c'est « Give Peace a Chance », et qui est en effet tourné à chaud durant le processus de Oslo, qui devient tourné à chaud comme documentaliste, devient en effet un document historique. Pareil pour un film tourné après l'assassinat de Rabin, La Reine des Meurtres, qui est en effet un film qui devient, quand on lit ou quand on regarde ou quand on fait une lecture des films La Reine des Meurtres aujourd'hui, pour moi, historien, c'est un texte historiophotique, c'est un texte historique tourné, parce qu'Amos était le seul à faire, trois mois après l'assassinat de Rabin, une sorte une inspection et une sorte de surveille avec les caméras sur l'état d'esprit des Israéliens, trois mois après. Pour nous, c'est une sorte de document et historique et qui analyse l'état d'esprit des Israéliens trois mois après l'assassinat de Rabin. Et ça, c'est notre deuxième démarche. Troisième démarche historique d'Amos, qui est la conséquence de cette double démarche. D'abord, contester les mythes fondamentaux des historiographiques israéliens et documenter à chaud les événements clés de l'histoire d'Israël. La troisième démarche, c'est la contestation de, si vous voulez, la mémoire collective israélienne. On sait que Pierre Nora appelle une notion qu'on n'a pas encore entendue dans cette colloque, c'est les liens de mémoire israéliens. Les liens de mémoire, un lien de mémoire, la définition de Nora d'un lien de mémoire. Un lien de mémoire, c'est un site, si vous voulez, institutionnel, et qu'il soit physique ou sémiotique, et qui véhicule la mémoire collective d'un groupe. Alors, Amos, à travers son travail cinématographique, et pas seulement cinématographique, à travers son travail dans les théâtres, et aussi à travers son travail archivique, à lui seul, en effet, constitue une sorte de lien de mémoire alternative au lien de mémoire officiel israélien. Et ça, c'est un troisième élément. Alors, le travail d'Amos commence, en effet, pour moi, à la fin des années, ou si vous voulez, les fers d'histoire, si je vais utiliser le terme des écoles des annales, et les fers d'histoire d'Amos, historiophotique, si vous voulez, d'Amos, commence à la fin des années 70 avec un film très mal connu, qui est fait, si je ne me trompe pas, pour la télé israélienne, sur les émeutes de Wadi Salib. Et en 1959, il y avait un émeute des Juifs séfarades au Wadi Salib. Et pour commémorer les 20 ans de Wadi Salib, Amos a tourné un film sur cet émeute. Et là aussi, Amos a fait quelque chose. Il a brisé un tabou parce que le gouvernement travailliste a essayé de mettre le silence sur cet événement où, en effet, les séfarades de Wadi Salib, un petit Wadi, ce n'est pas les Wadi dont Amos a tourné un film plus tard, mais c'est un Wadi à côté, où il y avait un quartier pauvre, un ancien quartier arabe, dont la population a été soit chassée, soit fuite à 48, peuplée par les nouveaux immigrants séfarades, maltraités, qui se sont révoltés en 1959. C'est brutalement réprimé en 1959, et 20 ans plus tard, Amos est arrivé avec son caméra et son travail historiophotique, fait à la fois à partir des entrevues et aussi des documents originaux, a été un travail assez nouveau parce que c'est seulement 15 ans plus tard qu'en effet un travail historique, historiographique a été fait. Et au début des années 90, les livres de Weiss sur Wadi Salib. Alors, ton travail en 1979, c'était en effet le premier texte historiophotique ou historique, si vous voulez, traitant ce phénomène-là, et qui, en effet, démontre bien ton démarche de mettre en valeur et de faire sortir des silences un thème principal dont on voulait, en effet, camoufler, faire oublier. Le seul problème, c'est qu'en effet, est-ce que ce film pouvait fonctionner comme lieu de mémoire? Il ne pouvait pas fonctionner comme lieu de mémoire parce que ce film appartenait à la télé israélienne. Il était sous contrôle de la télé israélienne. Et c'était également l'essor du deuxième film qui est à tourner. C'était le film Byte, Maison, dont on vient de voir un morceau. Mais l'histoire de Byte, si je ne me trompe pas, t'as pris un contrôle de Byte. T'as fait sortir Byte des contrôles de la télé israélienne. T'as pris contrôle sur Byte, comme sur les suites des suites de Byte. Et par conséquent, le fait que le metteur en scène a pris contrôle sur le film, il avait libéré de l'emprise de la télé israélienne, lui a permis, en effet, de le transformer en un lieu de mémoire. Parce que quand la télé, dans ce cas-là, la télé israélienne est le propriétaire d'un film, il peut le projeter une fois et puis le faire oublier en le jetant dans les archives de la télé et on les ferait mettre dans le silence. Ça, c'était l'essor de Wadi Salib. Par contre, le film Byte, ça, c'était vraiment un point de départ, de véritable travail d'Amos, parce qu'avec ce film-là, Amos tournait, il continue à tourner et à projeter ce film qui constitue une sorte de lien de mémoire sur l'histoire des conflits israélo-palestiniens. Parce que, pour moi, en effet, bien que ce film-là ait été tourné en 1980 au présent, pour moi, c'est un film d'histoire des conflits israélo-palestiniens à partir de 1948 sur l'histoire des Nakba et jusqu'aux années 1980. Alors, hier, on a entendu une conférence qui a fait une comparaison entre histoire, qui a été considérée par les conférenciers comme une sorte de récit histoire qui était considéré comme quelque chose de fermé et statique, et la mémoire qui était considérée comme ouverte, dynamique et continuelle. Alors, dans le cinéma d'Amos, l'histoire n'est jamais fixe et fermée. Elle est toujours continuelle, fluide et vivante, comme dans les cas de Byte. Dans les cas de Byte, l'histoire commence en 1948 et même avant, parce que comme on a vu avec les propriétaires de la maison, l'histoire commence avec Allenby, avec l'occupation britannique de la terre des Palestiniens en 1917, quand les Britanniques entraient à Jérusalem, à peu près, ils récoltent. Le film Byte, il n'est pas, en effet, l'opération cinématographique d'histoire peut être faite à partir de trois opérations. Soit utiliser les morceaux d'origine, c'est-à-dire que les morceaux du passé, les morceaux cinématographiques, soit tourner au présent avec des témoins, comme on l'a vu, soit reconstituer des scènes en utilisant la fiction. Pour les cas de Byte, on utilise surtout on tourne au présent en utilisant des témoignages, comme le témoignage de Dajani. Alors, l'histoire, en effet, se déroule, et en effet, commence avec 1948, et là, Amos fait sortir des silences à travers l'objet Byte. La particularité, en effet, des films, c'est qu'il choisit la maison soi-même comme acteur principal du film. Il raconte l'histoire des conflits israélo-palestiniens, ou si vous voulez, des tragédies israélo-palestiniennes, les tragédies des réfugiés palestiniens qui étaient obligés de quitter leur maison, et les tragédies aussi des réfugiés juifs qui sont arrivés en 1948 en Israël et qui se sont installés dans les maisons des Arabes à travers l'héros principal qui est la maison, l'objet matériel physique filmable, qui est filmé par les caméras, saisissable, un objet qui est en train de transformer tout le temps de 1948 jusqu'à 1980. Et on sent, on est en train de voir une histoire en train de se transformer devant les caméras, à travers l'objet filmé et à travers les témoignages des différents acteurs. Comme ça, on voit en effet l'histoire en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de la famille Dajani, qui vit dans cette maison des périodes des Turcs à travers les périodes britanniques, et puis dans ce quartier prospère des quartiers chrétiens prospères des Talbiyeh, où toute une élite chrétienne et commerçante prospère dans ce quartier. Et M. Dajani nous montre la maison de son père, de ses frères, de ses cousins, etc. Et puis vient la guerre de 48 et toute la population chrétienne sont obligés de quitter le quartier. Puis nous avons une deuxième phase démontrée dans le film, la phase des années 50, la chute des quartiers. Le quartier devient un quartier pauvre. D'après la loi israélienne, les maisons sont confisquées, la loi des Nifkadim, des personnages absents. Et puis les maisons sont divisées, et puis des nouveaux immigrants entrent, des nouveaux immigrants de l'Afrique du Nord entrent dans les maisons. Et là, Amos filme un couple de nouveaux immigrants et qui raconte leur vie. Il n'apprécie pas du tout le fait qu'il habite dans un palais. Ce qui les gêne, c'est le fait que la maison est trop grande, l'espace est très cher et très difficile à réchauffer. Ils souffrent là-bas. Et ils racontent leur vie des années 50. Et puis, il y a la troisième phase, la phase de l'après-67. Et après 67, après une période de crise économique des années 60, il y a les prospérités après la guerre des six jours. Et on voit cette prospérité à travers les séries d'entrevues qu'Amos fait avec un entrepreneur et son fils. Les gens qui étaient des ouvrières juifs avant et qui deviennent de nouveau la classe des nouveaux riches juifs qui prospèrent avec un autre acteur qui apparaît dans le film, les ouvrières palestiniennes. Qui Amos suit dès le début du film jusqu'à la fin. Dès le début du film, où ils sont en train de creuser dans un mine les pierres, préparer les pierres pour la nouvelle phase de la maison, où la maison est transformée de nouveau, parce qu'il y a une nouvelle classe des richissimes israéliens, est formé par exemple, le professeur Barkaï, un économiste israélien de Jérusalem, et son associé décide d'acheter la maison. Il paye une somme quelconque aux nouveaux immigrants qui quittent la maison. Il transforme de nouveau en palais. Et là, on voit en effet comment le quartier redevient un quartier des riches. Et comment en effet le capitalisme israélien, d'abord les pouvoirs israéliens, les pouvoirs la montée des pouvoirs israéliens après 67 est en train de remonter. Et comment une nouvelle élite israélienne monte et le quartier est transformé. En effet, on a toute une histoire en effet d'Israël et des conflits israélo-arabes à travers la notion de la maison. Et à travers cette notion de la maison, on a un conflit, on a une histoire. Que je dois vous dire qu'en effet, l'école des annales de la première génération, des historiens comme Marc Bloch de la première génération, Fernand Braudel, serait fier de cette approche. Parce qu'en effet, Braudel a dit qu'en effet, pour faire l'histoire, il a opposé l'histoire politique du 19e siècle qui se sont concentrés autour de personnages individuels et qui faisaient l'histoire politique des individus. Tandis que l'histoire que toi, tu nous montres à travers Baït, c'est une histoire sociale totale. Tu nous montres en effet l'histoire d'une manière très économique, à travers l'histoire de Baït, l'histoire totale des conflits israélo et palestiniens de 1948 jusqu'à 1980, à travers toutes les échelles de la société, des basses sociétés, des pauvres immigrants juifs qui émigrent de l'Afrique du Nord, des ouvrières palestiniens avec qui tu parles et tu montres en effet de manière très pratique la manière dont ils travaillent, leur maison en Cisjordanie, leur arrivée à 5 heures du matin au lieu de travail, leur discours, leur approche et les représentations de la société d'Israéliens, leur haine de sionisme. Puis vous montez petit à petit à l'échelle moyenne des classes moyennes, des entrepreneurs israéliens qui deviennent des classes importantes après la guerre des six jours. Et on monte après aux intellectuels qui deviennent des classes aisées, des Barkaï, jusqu'à l'ancienne aristocratie palestinienne qui se sont appauvries après 48, la famille Dajani, etc. On voit toute cette échelle. De cette échelle de la société israélo-palestinienne qui est en train de se transformer à travers les conflits israélo-palestiniens, à travers Baït. Et cette histoire dynamique, donc, mais cette histoire dynamique ne s'arrête pas là, parce que Amos prend les bytes et les transforme, il les fait bouger les bytes à travers le temps. Il n'arrête pas en 1980, parce qu'il continue, parce que les bytes ensuite, de nouvelles de bytes, et en 1998, il fait un deuxième chapitre de bytes, et en 2005, il fait un troisième chapitre. Autrement dit, la notion de temps sert comme une sorte de base pour faire bouger les bytes, pour faire bouger la maison à travers les temps. Et à travers les temps, on voit à travers les bytes la transformation des bytes et la transformation des habitants et la transformation de l'histoire d'Israël. Après, avant Oslo et après Oslo, et par rapport au deuxième intifada, et on voit petit à petit comment en effet les diasporas palestiniens se structurent et comment en effet les bytes deviennent le désir de retour des diasporas palestiniens vers les bytes, vers la maison, deviennent de plus en plus, s'éloignent de plus en plus. Comment on s'installe de plus en plus à Amman, comment on s'éloigne, comment en effet. Et les Palestiniens se judaïsent, si vous voulez, devient, et comment en effet l'occupation devient un phénomène, se naturalise, et comment la société israélienne se transforme, et change, s'adoucit et devient une société dominante et à travers les années 80 et les années 2000. Cette trilogie, donc, pour moi, quand on les lit avec une certaine distance, peut être constitué comme un vrai livre d'histoire, d'histoire israélo-palestinienne. De la même manière, j'ai combien de temps encore ? De la même manière, on peut encore lire la trilogie Vadi. On a montré aujourd'hui Anna Arabia, mais Vadi aussi peut être considéré comme un livre d'histoire. Vadi Rushmia, pas Vadi Salib, parce que Vadi Rushmia est aussi une histoire de conflit israélo-palestinien fait à Haïfa. Mais Vadi, à l'origine, quand il a été tourné, doit être une sorte de récit bait. C'est une histoire pessimiste de conflit israélo-palestinien. Vadi peut être considéré peut-être comme une histoire optimiste. Mais est-ce que c'est une histoire optimiste? Parce que Vadi, d'abord sur le plan de vue, point de vue cinématographique, là, Amos aussi suit les démarches de l'École des Annales. Fernand Braudel a déjà dit que les sites géographiques, ce sont des sites vivants qui peuvent servir comme des vrais acteurs d'histoire. Pour Braudel, les zones méditerranéennes, c'était les véritables acteurs d'histoire. Il fallait prendre les montagnes et la mer et les Vadi aussi comme les vrais acteurs d'histoire. Et pour Amos, le Vadi, Amos suit l'histoire de Vadi et de ses habitants dès 1981 jusqu'au 2001 à peu près, la transformation de Vadi, et à travers la transformation de Vadi, on voit à peu près la transformation d'histoire de Haïfa et l'histoire d'Israël. Mais qu'est-ce que c'est le Vadi? Le Vadi, c'est le limbo. Le Vadi, c'est une zone liminale. Le Vadi, c'est une zone où les marginaux habitent. Et seul dans le Vadi, dans les zones marginales, les Juifs et les Arabes arrivent à cohabiter, comme dans Anna Arabia. Qu'est-ce que c'est Anna Arabia? Qu'est-ce que c'est cette zone entre Jaffa et Bat Yam? C'est une zone liminale, si on suit la définition des anthropologues. Les anthropologues ont dit qu'il y a les masculines et les féminines. Et entre les masculines et les féminines, il y a les hermaphrodites. Et les hermaphrodites, c'est quoi? C'est soit les totems, soit les tabous. C'est un espace non définissable. C'est comme l'espace de Vadi ou l'espace de Anna Arabia. Et dans cet espace non définissable, où il n'y a ni un quartier juif, ni un quartier arabe, c'est là que les marginaux arrivent. Et seuls là, les juifs et les arabes arrivent à cohabiter, à peu près. Alors, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste? Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est à travers cette histoire de Vadi qu'Amos nous raconte l'histoire de Haïfa. L'histoire, et là aussi, il y a d'histoire. C'est filmé soi-disant en présent, mais ce n'est pas le présent. On nous raconte en effet dans le Vadi l'histoire d'une part des Arabes qui ont souffert de la tragédie de 1948 et qui habitent dans les pauvres maisons, et puis les Juifs. Les Juifs qui ont souffert, qui viennent d'arriver, les victimes de la Shoah, qui ont décidé de s'installer dans cette no man land, dans cette Vadi Rushmia. Et la deuxième partie de Vadé, au 91, il y a les nouveaux immigrants russes qui viennent de s'installer, qui viennent de se joindre. Mais la troisième partie de Vadé, qu'est-ce qui se passe? La société de consommation qui se trouve à côté arrive à pénétrer le Vadé. Avec la troisième partie Vadé, on crée un immense centre commercial à l'intérieur de Vadé. Le capitalisme, le nouveau capitalisme commercial arrive à pénétrer le Vadé et à chasser une grande partie de ses habitats et de ses animaux. Le capitalisme, cet mélange si vous voulez, de tout pouvoir et politique et militaire israélien d'une part, qui domine la Cisjordanie d'une part, et qui domine la vie économique de l'autre part, pénètre d'une part l'espace politique et de l'autre part l'espace physique et économique. Et le résultat, les centres commerciaux pénètrent le Vadi et chassent ses habitants. Donc, là, si vous voulez, l'histoire de Vadi, c'est aussi une histoire, finalement, pas très optimiste, l'histoire d'Israël. Alors, Amos continue, Amos continue à travailler comme, si vous voulez, l'un des années les plus riches de travail d'Amos comme historien, c'est les années 90, où Amos travaille à la fois comme historien de sa propre histoire, où il fait à la fois des films sur sa propre histoire personnelle de Kippour, à la fois un film de commentaire et un film de fiction. Mais c'est une histoire personnelle, mais aussi une histoire collective. Aussi un trauma que les Israéliens ont fait de toucher, perdre de toucher, où Amos se sert en effet de sa propre histoire pour en effet essayer de réparer, de guérir sa propre trauma personnelle et sa propre trauma collective. Et dans ce sens-là, le cinéma historique a aussi une autre fonction, et ça c'est une fonction thérapeutique. L'histoire aussi fonctionne comme une fonction thérapeutique. Mais quand Amos traite l'assassinat de Rapin, est-ce que ça a une fonction thérapeutique? Je ne sais pas. Je vais vous dire que pour là, en effet, il y a un autre problème. Amos, comme j'ai déjà noté, en 1994, il filme en quatre parties « Give Peace a Chance ». En quatre parties, la première partie, il est de la voix d'Orange, il fait une série d'interviews sur l'homme simple, sur la paix. Deuxième partie, il fait une série d'interviews avec Yasser Arafat, et avec Shimon Peres et avec Rabin. La troisième partie, c'est les intellectuels, Emil Habibi, et Aleph Bet Yeshua et Amos Oz. Et en quatrième partie, c'est avec un célèbre acteur de cinéma et de théâtre dont le père est arabe et la mère est juive, et qu'il tourne le film. Ces quatre éléments, ces quatre parties, comme je dis, montrent une sorte d'optimisme et fonctionnent comme un document historique. Mais après l'assassinat de Rabin, Amos tourne La Reine des Meurtres, un autre document historique. Mais ce que Amos et nous tous, nous notons après 1996, c'est que le gouvernement et l'historiographie officielle israélienne depuis 1996 adoptent une politique dont l'objectif est de faire oublier l'assassinat de Rabin. Depuis 20 ans, on parle de moins en moins d'assassinat de Rabin. Et on ne fait pas de films sur l'assassinat de Rabin. Il n'y a pas de livre d'histoire d'assassinat de Rabin. On n'enseigne pas l'histoire d'assassinat de Rabin à l'école. En effet, la version officielle d'assassinat de Rabin, c'est soit on l'avait pas, est-ce qu'on l'avait assassiné? Et si on l'avait assassiné, est-ce que c'est la droite qui l'avait assassiné? C'est pas sûr que c'est la droite, c'est peut-être la gauche. C'est peut-être les Shabak qui l'avaient assassiné. C'est-à-dire que c'est dans le brouillard, cette histoire. Actuellement, quand on commence à poser la question d'assassinat de Rabin, ce n'est pas du tout clair. Bien sûr, il y a la fondation Rabin, mais c'est dans les marginales. Les films Rabin de Amos, c'est vrai, il est projeté partout dans le monde, mais en Israël, on ne les projette pas. Très peu. On essaie d'empêcher la projection. L'idée, la stratégie officielle israélienne, en Israël, c'est ceux qui sont responsables de la mémoire collectif israélien vise à faire oublier l'assassinat de Rabin. C'est pour cette raison que tourner un film sur l'assassinat de Rabin était un acte très, très important. Ça, c'était vraiment un vrai lien de mémoire. Il fallait le faire. Et il fallait insister et montrer la responsabilité de la droite pour l'assassinat. Et là, dans ce film, ça, c'est un véritable exemple de historiophotie, parce que là, Amos utilise les trois éléments importants pour constituer le cinéma comme texte historiophotique, parce que c'est à la fois une série d'entrevues au présent, parce que le film commence avec une entrevue de Shimon Peres. Il y a une série de textes tournés à chaud pendant les périodes d'assassinat, et puis il y a des textes de reconstitution et soi-disant fictifs. Mais l'ensemble sont mis dans une sorte de narration de telle manière que l'ensemble sont des textes historiques cohérents. Je vais vous dire d'ailleurs que les historiens qui pratiquent l'historiographie travaillent de la même manière. Bien que l'historien qui écrit des textes basés sur les documents écrits prétend qu'il tient les clés de la vérité, il travaille de la même manière. Il se sert des textes écrits, des témoignages qui tiennent des périodes étudiées, mais eux aussi, ils ont recours à l'affection. Et le travail, la représentation des passés à travers les textes écrits, c'est aussi un travail de montage. Et c'est aussi basé sur un procédé narratif, de la même manière. Autrement dit, et là, Hayden White l'a montré de manière très claire dans ses travaux. Bref, le travail d'Amos dans Rabin, c'est un véritable travail d'historien. Et un véritable acte d'accusation contre la droite israélienne. Notamment cette partie qui montre la responsabilité directe de Benjamin Netanyahu, qui est là, sur le balcon, en train de faire ce discours très explicite, dont l'historiographie officielle essaie soit effacer ce discours, soit découper en deux secondes, tout simplement. Et pourtant, comme j'ai déjà dit, Amos a transformé, depuis quelques années, il fait tout seul une sorte de lien de transformer l'assassinat de Rabin en, comme, il est transformé comme un lien de mémoire, comme en France, l'assassinat des ducs de Guise ou l'assassinat, de Jean Jaurès, qui devient un véritable lien de mémoire en France. Mais pas en Israël. En Israël, l'assassinat de Rabin, c'est pas un lien de mémoire. Au contraire, on essaie de l'effacer. Amos le transforme en lien de mémoire par le cinéma, par le théâtre, par les représentations de musique. Mais tout ce travail de reconstitution des liens de mémoire sont faits surtout hors d'Israël, parce qu'en Israël, on ne laisse pas les faire. C'est ça le problème. Comment on va le faire en Israël? Comment on peut en effet et influencer et l'opinion publique israélienne? Comment en effet lutter contre la stratégie de la politique officielle israélienne et imposer l'assassinat de Rabin comme lien de mémoire ou la contre-lien de mémoire de Amos comme alternative à cette stratégie imposée par le gouvernement israélien? C'est ça la question qu'il faut poser. Et voilà. Et dans ce sens-là, c'est, comme je dis, c'est un travail important, très important, qu'il faut continuer. Il faut continuer à faire des films sur Rabin et il faut continuer à essayer de les diffuser, en utilisant toute stratégie possible, diffusée en Israël. Je vous remercie. Je crois que ce n'est pas la peine de projeter cette... Alors, si vous voulez, vous pouvez les projeter, cette partie-là, sur Rabin, où j'ai choisi un morceau qui est un mélange de, si vous voulez, un mélange de morceaux et que Amos a choisi des morceaux et OK, alors on n'a pas besoin. Je vous remercie.
Merci beaucoup.